Eh bien, mes amis, j'aimerais que nous regardions ensemble le psaume 51. Nous le lisons, je le lis, et nous laissons cette parole entrer dans notre cœur. Au chef des chantres, donc c'était un psaume pour être chanté, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ça, c'est le titre du psaume. C'est un titre assez long, hein, qui déjà veut dire beaucoup de choses. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne tes regards de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. L'être humain a toujours besoin des mêmes choses. Du soleil. Ça peut être d'ailleurs aujourd'hui un petit inconvénient aux conférences de carême, puisqu'il fait beau et on n'a pas eu l'habitude de voir le soleil depuis un moment. De soleil, de pain et d'eau. Il a besoin de pardon et d'amour, de paroles, et de Dieu, et de parole de Dieu aussi. Dans chaque époque de l'histoire, on s'est fait une idée de l'être humain toujours incomplète. Parfois, on l'a divinisé, pour d'autres, on les a dégradés, d'autres, on a élevé leur intelligence comme étant le sommet de la vie, pour d'autres, on a élevé leur corps comme étant le sommet de la vie, ou leurs objets. On n'a jamais saisi toutes les dimensions de l'être humain. La Bible seule, c'est un chrétien qui vous parle, la Bible seule montre l'être humain tel qu'il a toujours été, avec ses grandeurs et ses misères. La Bible ne flatte pas l'être humain. La Bible ne méprise pas l'être humain. Quand je dis la Bible, je veux dire Dieu. Mais elle le regarde tel que Dieu le voit, tel qu'il est, j'ajouterai, tel qu'il sera. Mais la Bible nous montre ce que Dieu fait. Quand l'être humain passe par la souffrance, par le péché, tout ce qui bouleverse la vie, de famille, de l'homme, de la femme. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il nous conduit. J'ai intitulé toutes ces conférences « Dieu de la vie, conduit-nous ». Le psaume 51 que nous venons de lire, vous avez bien ressenti, c'est le cri d'une âme coupable, malade, brisée par une faute. Celui qui parle ici, c'est le roi David, roi de Jérusalem. Mais avant que ce David n'ait parlé, il y a eu la voix de Dieu. Dieu parle toujours avant nous. Dieu nous aime toujours le premier. Dieu joue toujours le premier. Et cette voix a ouvert une porte à David qui était enfermé dans une situation impossible. Cette voix a été portée par un homme inconnu. On ne connaît pas beaucoup cet homme. Il s'appelle Nathan. Alors que s'est-il passé ? David, roi de Jérusalem et d'Israël, il est un soir, et je pense qu'il faisait très beau et très doux. Un soir, il est là sur sa terrasse, dans le cœur de Jérusalem, et il aperçoit sa voisine, très belle, qui se baigne. Cette voisine s'appelle Bathsheba. C'est la femme d'un nommé Uri, qui est un des chefs de l'armée de David et qui est en train de faire la guerre contre la tribu des Ammonites pour protéger le peuple et Jérusalem. Il a fait appeler la femme et il a couché avec elle. C'est déjà un pas. Elle est tombée enceinte. C'est un deuxième pas. David, devant cela, a donné une permission à son mari. Il était soldat. Une permission de 24 heures. Avec une prime. Tout frais payé pour qu'il vienne passer une nuit avec sa femme. Pour que la paternité, je vous répète que Bathsheba est enceinte, pour que la paternité soit attribuée au mari. Mais M. Uri, qui entre parenthèses est un Hittite, un peuple qui était assez repoussé par les enfants d'Israël à cette époque, mais enfin c'est un Hittite qui était adopté par Israël, c'est un homme d'honneur. Et il a refusé de coucher avec sa femme. Disons plutôt, il a refusé ce bonheur parce que pendant ce temps-là, ses soldats dormaient en rase campagne et se battaient sur le front avec les Ammonites. Et il a dit, moi, je dormirai bien tranquillement alors que mes amis soldats se battent. Il a dormi devant la porte de David. David est en colère. Son plan a échoué. Il a redonné une permission de 24 heures à Uri. Et là, il l'a invité chez lui pour un petit repas. Et il l'a fait boire pour qu'il soit suffisamment saoul pour lui dire « Maintenant, mon cher ami, tu vas aller passer ta nuit avec ta femme bien-aimée. » Et Uri, malgré qu'il était peut-être un peu pas très bien, hein, il a refusé de passer une nuit avec sa femme pendant que ses soldats se battaient. C'est quelqu'un, ce nommé Uri. Alors David est découragé, il n'a plus qu'une solution, il le renvoie sur le front avec une lettre pour remettre cachetée, pour remettre à Joab, le général de l'armée. Et dans la lettre était écrit ceci, « Place Uri au plus fort du combat, laisse-le seul pour qu'il soit tué. » On n'en revient pas, on n'en revient pas. À cette époque-là, remarquez, il n'y avait rien de grave. Aucun roi du Moyen-Orient de l'époque n'aurait trouvé criminel de coucher avec sa voisine et puis d'envoyer son mari à la guerre. Les rois disposaient des femmes et des soldats comme ils voulaient. Ça faisait partie de la mentalité de l'époque. Uri est tué, évidemment. Tout a été fait pour. Et quand on apporte la nouvelle à David en disant « Oh, il y a eu une défaite, les Ammonites étaient contents, on a triomphé sur David, et puis Uri est mort. » David a dit « Oh, c'est la guerre. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Allez, on n'en parle plus. » On n'en revient pas. Alors il s'est marié avec Bathsheba, la jolie veuve, et puis il a eu un enfant. Alors il était un heureux papa et on s'est demandé ce qui se passait dans le ciel et sur la terre. Rien ne bougeait, c'était le crime parfait. Enfin, parfait. Il faut écouter le psaume 32. Là, David, il parle de cette histoire et il dit « Je gémissais toute la journée ». Ce n'est pas le calme total. Ma vigueur n'était plus que chasseresse comme celle de l'été. Ta main s'appesantissait sur moi. il a le sentiment qu'il a la main de Dieu qui pèse sur sa conscience, parce que David est un croyant profond, malgré sa faute. C'est pas si calme que ça, mais pendant 9 mois, c'est le crime parfait parce que personne ne le sait. Que faire devant une telle situation ? Prendre la fuite ? David lui-même dit dans un psaume, « Où irai-je loin de ton regard ? Si je vais à l'Orient, tu y es, si je vais à l'Occident, tu y es, et mon péché est constamment devant moi. » Que faire devant ce double crime qui blesse sa conscience ? Compenser ? En faisant des belles choses pour compenser les mauvaises ? On prend Dieu pour un négociant. Tu me donnes, je te donne. On va faire des échanges. On prend Dieu pour un négociant parfois, vous savez. Pouvons-nous régler nos fautes avec des prières ? Pouvons-nous régler nos fautes avec des larmes, de l'argent ? Ou les noyer dans l'alcool pour les faire disparaître dans les distractions et modernité dans le rire, parce qu'aujourd'hui on rit beaucoup. Si on pense cela, c'est vraiment réduire l'un des plus grands drames humains, parce que le péché, c'est vraiment le drame humain, cause de guerre, cause de famine, cause de tellement de drames familiaux. Si on réduit le plus grand drame humain à un jeu vidéo, on marque des points, on perd des points, je crois que vraiment, on n'a rien compris. Ce n'est pas nous qui décidons de la règle du jeu. Ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas moi qui décide de vous dire qu'actuellement il est 4h-10. Ce n'est pas moi. Le péché n'est pas une fable. Parce que j'ai entendu des gens dire « Le péché aujourd'hui, c'est fini ça. » Ce n'est pas une fable comme le petit chaperon rouge qui est rempli de bon sens. C'est le souci de Dieu, le péché. Et c'est le souci des hommes. Demandez à la femme qui voit ses enfants se tourner contre elle. Demandez au père. Demandez à la personne qui voit son conjoint partir. C'est le souci de Dieu. C'est le souci des hommes. Le péché est sérieux parce que nous ressentons qu'il y a derrière le péché quelqu'un. Dieu. Nous ressentons que on n'est pas seul, c'est pas une chose avec laquelle on peut faire ce qu'on veut. Il y a quelqu'un derrière tout cela. Quelqu'un disait que on pourrait penser que la culpabilité serait une preuve de l'existence de Dieu. Il faut faire des examens de conscience. Un être humain, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se regarde, il faut qu'il s'examine. Comme on examine le compas dans le bateau pour toujours bien se diriger, il faut examiner. Luther disait, Martin Luther, « J'étais un moine de bonne foi, mais devant Dieu, ma foi était hypocrite et superstitieuse. » Il a commenté le psaume 51. Dieu ne veut pas entrer en dispute avec nous. Mais Dieu veut que on se laisse convaincre par la vérité de Dieu. Dieu a quelque chose à nous dire sur le péché. Pas nous châtier, nous perdre, nous exterminer, mais il a quelque chose à nous dire, comme une mère qui verrait son enfant marcher sur le bord du vide aurait un petit mot à dire à l'enfant, sans le traumatiser, bien sûr. Ce crime m'étonne pour deux choses. D'abord, la Bible ne cache pas l'affaire. Aujourd'hui, on essaie de cacher beaucoup d'affaires en politique, ou parfois on les montre complètement. Mais la Bible, finalement, nous a raconté l'histoire de David, qui était quand même un homme de Dieu remarquable, pour que ça nous serve d'avertissement, d'exemple. Deuxième chose qui m'étonne, c'est comment a-t-il pu faire ça ? Parce que David, c'est le poète de Dieu, c'est l'homme de confiance de Dieu. Il y a un mot qui est magnifique de la bouche de Dieu. Il dit, c'est un homme en qui j'ai trouvé tout mon cœur. C'est un homme selon mon cœur, comme j'aime. Voilà l'homme que j'aime, David. Tellement il était intègre, bien, droit, parfait. Comment a-t-il pu salir son âme dans un tel scandale? On aurait envie de dire, comme le pharisien de la parabole de Jésus, « Je te remercie, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme cet homme-là. » Non ? Je te remercie de ce que je ne suis pas comme David. Mais que chacun réfléchisse à sa vie avant de jeter la première pierre. Qui a dit cela ? Jésus. Que chacun réfléchisse à David aussi, ce berger sorti de sa bergerie qui tout à coup devient roi très vite, exposé aux tentations d'un pouvoir royal sans limite. Nos hommes politiques le savent peut-être, sont exposés à des tentations de pouvoir. Et puis dans une époque où, peut-être pas trop en Israël, mais autour, eh bien c'était tout à fait commun, banal, sans gravité, de prendre une femme, de tuer son mari, enfin. Alors que faire devant une telle faute? Ça nous rejoint quand même, parce que nos fautes alourdissent notre vie. Parce que la faute est irrémédiable. Toute faute est irrémédiable. Parce que Dieu, avec toute sa puissance, toute sa force de créateur, ne peut pas faire qu'une chose qui a eu lieu n'ait jamais eu lieu. Il ne peut pas remonter le temps en faisant que les choses n'ont jamais eu lieu. Une vie détruite, un honneur sali, personne ne peut revenir en arrière. Que faire? Il y a dans la faute, dans le péché, une puissance étrange qui nous vide de nos forces et qui nous rend presque incapables de nous relever. Il y a quelque chose de fort dans le péché. Jésus disait, si vous vous livrez au péché, vous êtes esclaves du péché. Autrement dit, le péché va vous conduire comme si vous étiez des manants, des moins que rien. Il va vous conduire dans l'esclavage. Jésus l'a dit. Donc il y a une force qui est plus forte que nous. David dit ici, les os que tu as brisés, son péché lui brise les os. Enfin, le cœur, ses membres, sa santé, toute sa vie est brisée. Je ne crois pas que c'est Dieu qui brise ses os. Mais Dieu a retiré sa main et il est sans repos. Il est troublé. Le Seigneur a enlevé toute sa confiance qu'il avait dans des appuis, dans sa gloire de roi David de Jérusalem, avec son armée invincible, pratiquement invincible. Le Seigneur est en train de lui montrer que la vie, la joie, ne viennent que de Dieu et d'une relation bonne avec Dieu. Alors, que s'est-il passé? Un regard, et voilà. Vous vous rappelez de Adam et Ève? Un regard. On va mettre un petit peu de ventilation pour ne pas que votre regard se pose ailleurs que sur la Bible. Un regard et toute sa vie s'est trouvée enchaînée. Toute sa vie. Vous avez remarqué tout ce qu'il a fait? Convoitise, débauche, je l'accuse. Non, je ne l'accuse pas. Mensonge, perfidie, la lettre. Meurtre, endurcissement de cœur, aveuglement, rigueur, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, rigueur contre quelqu'un qui a volé un mouton, une rigueur implacable, une rigueur terrifiante contre quelqu'un qui a volé un mouton. Comme s'il voulait paraître juste en méprisant les autres. David, dans cette histoire, a péché pratiquement contre tous les commandements de Dieu. Quand on entre dans ce monde de la faute, on est dans un labyrinthe et on se heurte à 36 murs autour de soi. Voyez-vous, mes amis, nos idées sur le péché sont très incomplètes. Nous disons souvent, tant que t'es pas pris, c'est bon. Tant que t'es pas pris, c'est bon. David, c'est ce qu'il a peut-être pensé. Je ne suis pas pris, je suis resté correct, parfait. Dieu de la vie, conduis-nous vers la vérité. Conduis-nous vers la paix. Et le psaume 51 va nous montrer comment nous pouvons sortir du péché, sortir du mal par la main tendue de Dieu. Que va-t-il se passer ? Ça fait 9 mois, peut-être 10 ou 11 mois que David a commis cet acte et puis tout se passe bien. Dieu va appeler un homme d'Israël, Nathan, qui n'a rien vu, qui ne sait rien. Cet homme est sensible à la parole de Dieu. Et Dieu va l'envoyer vers David avec une petite histoire. Et un soir, Nathan va frapper à la porte du roi en disant, dans une ville, comme si l'histoire était vraie, l'histoire était d'aujourd'hui, dans une ville, il y avait 2 hommes, un homme très riche qui avait des moutons, des bœufs, des brebis, des béliers, des boucs, et un homme très pauvre qui s'est acheté une petite brebis. Et cette petite brebis, on ne peut pas t'imaginer à quel point il l'aimait. Elle mangeait dans son assiette, elle dormait avec lui, il la considérait comme sa fille, c'était vraiment l'enfant de la maison, une petite brebis. Et il est arrivé chez le riche un soir, un ami qui de passage là s'est arrêté chez son riche ami. Et quand le riche a reçu son ami, il a dit évidemment on va faire un petit repas, normal. Du mouton, ça te plairait. On pourrait faire quelque chose d'intéressant. Mais en réfléchissant, ce riche, avec tout son troupeau, s'est dit, je ne vais quand même pas perdre un mouton pour mon ami. Il est allé chez son voisin. Il a volé la brebis du voisin. Il l'a tué et ils l'ont mangé. Ça va, vous suivez ? Pour garder toutes ses brebis. Il a volé celle du voisin. David explose, indigné. Le Seigneur est vivant. Et aussi vrai qu'il est vivant, cet homme-là mérite la mort. Et avant de mourir, il rendra 4 brebis. Et Nathan arrête un instant et lui dit, c'est toi cet homme-là. Vous voyez ? C'est toi cet homme. Parce que je t'avais donné des femmes. Ce n'est pas une parole qui correspond à notre temps. Hein. Mais il lui a dit, je t'ai donné des femmes, tu as pris celle de ton voisin et tu as fait tuer Uri, ton ami. Tu es cet homme-là. David s'est effondré et il a dit, j'ai péché contre le Seigneur. Il s'est effondré. Et ce qui me frappe dans cette histoire, ce n'est pas d'abord la profondeur de la chute morale, c'est la sincérité de David, c'est le retour de David, c'est la repentance de David. Parce que tomber, c'est un peu le fait de l'homme, c'est le propre de l'homme sur la terre. Mais se relever, comme David, c'est le miracle de Dieu. Je ne dis pas que l'homme est fait pour tomber, mais son chemin est plutôt la chute, et le travail de Dieu, c'est de nous relever. Amen. Nathan lui a montré son péché dans la vie d'un autre, afin qu'il puisse bien réagir. Il n'est pas venu en lui disant « Qu'est-ce que tu as fait ?» Certainement que le roi lui aurait dit « Occupe-toi de tes affaires ». Mais cette histoire l'a fait réagir dans la vérité de son cœur. Parce que vous savez, nous n'aimons pas notre péché quand on le voit chez les autres. Il nous agace notre péché chez les autres. À la seule parole de Dieu, toute simple, David s'est effondré, il a rebondi. Tu es cet homme-là. C'est une parole forte. Regardez la sensibilité, la sincérité qui doivent nous animer, nous concernant. On a plus pitié parfois de notre voiture que de notre âme. Et David, là, il s'est écrié et l'inscrit dans ce psaume 51, qui est un psaume, on a l'impression qu'il sort là d'un David qui vient de vivre l'affaire. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi !» Ce qui veut dire, entre toi et moi, il faut qu'il y ait un pont, un passage, la pitié, la pitié. C'est difficile de prier quand on sent dans son cœur les reproches de sa conscience. C'est difficile. L'âme pèse des tonnes. Dans la Bible, un prophète a eu une vision, il a vu une grande masse de plomb. Et Dieu lui a dit, c'est le péché. Le péché, ce n'est pas du plomb. Mais voulant dire, c'est d'un poids phénoménal. Et ça, c'est dans le cœur, c'est dans la pensée, c'est dans la conscience des humains. On ne peut pas rire avec ça. C'est la cause de tout le désordre de l'humanité. Oui, mes amis, il faut se faire violence quand on sent les reproches de sa conscience, parce que ces reproches veulent nous faire taire en disant « mais tu n'as pas le droit de prier, tu n'es pas digne de prier ». Comme on a voulu faire taire Bartimée l'aveugle qui criait « pitié de moi Jésus, et pitié de moi », on a voulu le faire taire. Et notre conscience est comme une foule en nous. Une foule de pensées qui nous dit « t'es pas digne de prier, t'es bon à rien ». On a constaté, Luther d'ailleurs aussi l'a constaté, que avant le péché, Satan nous rassure. C'est comme ça qu'il parle, Luther. Il nous enlève la crainte de Dieu. Et on a même l'impression qu'il nous dit « c'est pas si mal que ça, ce que tu fais, ça va pas aller loin. » Mais après le péché, il nous remplit de crainte, de désespoir, de doute, de trouble. C'est une grande histoire hein, de chaque être humain. Mais il est difficile de dire, quand on a une position élevée comme David en public, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Car souvent, j'ai entendu des gens me dire, à mes yeux, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas trop grave. Mais là, il dit, à tes yeux, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. On est dans un monde qui diminue la faute. On met des degrés dans le mal. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que David se condamne lui-même. Il ne cherche pas d'excuses. Je peux vous assurer que la plupart des gens auraient trouvé des bonnes excuses pour dire « c'est elle qui m'a tenté, non ? C'est elle qui m'a appelé, je suis qu'un homme, les hommes. » Il ne cherche pas d'excuses, il fait retomber sur lui tout le poids de sa faute. Luther disait, la colère de Dieu n'est pas contre ceux qui sentent leur péché. Car le Seigneur ne brise pas le roseau froissé. Quand on réalise qu'on a fait mal, on est froissé. Et Dieu ne continue pas de briser notre esprit froissé. Il ne cherche pas à détruire l'être humain. Il y a longtemps qu'il aurait pu le faire sinon. Dieu n'épouvante pas. Satan épouvante. Le péché épouvante. La conscience épouvante. Pas Dieu. Détourne, dit David, tes regards de moi. Détourne tes regards de mes péchés. Ne les regarde pas. Nous ne prions pas parce que nous sommes nets de péché, de faute, d'erreur, d'offense. Mais nous prions parce que nous sommes indignes. Je vais chez le médecin parce que je suis malade. J'aime bien mon médecin et parfois je le rencontre hors du cabinet. Mais je vais chez lui parce que je suis malade. Et si nous prions, c'est parce que nous sommes indignes et que nous voulons être honnêtes. Honnêtes et nets. Si Dieu n'aimait pas les pécheurs, les gens coupables, il aurait laissé David gémir, croupir dans sa conscience, dans sa culpabilité, dans son tourment intérieur. Mais Dieu lui a ouvert une porte en lui disant « Tu es cet homme-là ». C'est une mauvaise nouvelle quand même. C'est un peu dur, mais l'évangile c'est une mauvaise nouvelle pour une bonne nouvelle. L'évangile nous dit d'abord « Tu es pécheur, mais je t'aime et je veux te sauver ». Tu es loin, mais je vais te ramener. Je reconnais mes transgressions, dit David. Ce n'est pas parce que nous reconnaissons que nous avons mal fait que nous obligeons Dieu à agir. Reconnaître qu'on fait mal n'oblige pas. C'est comme si, devant un juge, on disait « Bon, je reconnais que j'ai mal fait, j'ai volé la maison de mes voisins, c'est tout, on n'en parle plus. » On n'en parle plus. Du moment que je le reconnais, c'est bon, monsieur le juge. Reconnaître qu'on a fait mal n'oblige pas Dieu à nous pardonner. Beaucoup plus complexe que ça. C'est pas rien à la force du péché. Parce qu'on peut penser que tout se règle vite. Quoique ça se règle vite. Mais que ça se règle sans passer par le chemin de Dieu. Le péché, c'est une force qui nous accuse, qui nous condamne, qui blesse la conscience, qui ôte la paix, qui met devant nous la colère de Dieu et l'enfer. Ça déforme tout. Ça nous déforme. Ce que j'ai aimé dans ce psaume, c'est cette prière de David : J'ai péché contre toi seul. Ce qui veut dire que quand nous péchons, notre péché atteint Dieu. La conscience d'avoir blessé les autres est dans David. David, il parle du sang versé. Il a versé le sang d'un homme. Il a fait tuer par des flèches un homme qui était quand même un homme de grande valeur, un de ses meilleurs chefs d'armée. Il a conscience qu'il a blessé les autres. Mais pour lui, ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a péché, il a blessé le cœur de Dieu. La blessure que nous faisons au prochain atteint Dieu. L'offense que je peux commettre envers quelqu'un ne s'arrête pas à la conscience du prochain. Dieu est impliqué dans nos relations. Je touche mon voisin, Dieu souffre. Jésus disait et dira, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous faites le bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous faites le mal, c'est à moi que vous l'avez fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a trouble dans le péché parce que Dieu existe, parce que Dieu est tout proche, parce que Dieu nous aime. Et on a le sentiment que le péché est d'une portée qui dépasse mon voisin que j'ai peut-être critiqué. Et parce qu'il nous aime, le péché de tous le blesse. Comme si quelqu'un faisait du mal à un enfant, sa mère en serait blessée. Peut-être qu'elle en mourrait de chagrin. Et quand je vois le Christ en croix, je vois le péché de tous qui blesse Dieu. Dans ce texte magnifique, vous relirez chez vous, David ne dit pas un seul mot sur ce qu'il a fait de bien. Oui, j'ai pris la femme du voisin, j'ai fait tuer son mari, mais je fais du bien. Pas un seul mot. Il implore la pitié de Dieu, la grâce de Dieu. Et David ne parle pas à un Dieu en colère. Il ne parle pas à un Dieu sans amour. C'est une aberration de ceux qui n'ont pas lu la Bible de dire Dieu c'est toujours la colère, le Dieu de l'Ancien Testament il est... Non, première fois que Dieu a parlé à Moïse, quand il s'est présenté à Moïse, il a donné comme une carte d'identité à Moïse en criant, Dieu a crié sur la montagne en disant l'Éternel miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui fait grâce aux pécheurs. Carte de visite de Dieu, vis-à-vis des humains. Je ne connais pas Dieu dans tout ce qu'il est. Je connais Dieu dans ce qu'il fait pour nous. Dieu, on ne le connaît pas. Qui est-il en lui-même? Mais je sais ce qu'il fait pour nous. Quel sentiment il a pour nous. J'ai péché contre toi seul. Avez-vous remarqué quand nous commettons une faute et que nous apprenons que personne ne le sait, que notre réputation est sauvée? Non, on respire, hein. On a l'impression qu'on renaît, on devient un homme nouveau, plein de joie, jovial. Pourtant Dieu a tout vu et il n'a pas encore pardonné. Ça, c'est la mentalité de notre temps. On se dit, si Dieu seul connaît notre faute, alors ça va. Ça va. Parce qu'on n'a pas conscience que Dieu est blessé, touché par notre péché. Nous pensons souvent, quand nous commettons une faute, à sauver la dignité morale. La dignité, c'est une idole aujourd'hui. Mourir dans la dignité. Oui, je comprends et je fais partie de ces mouvements. Mais parfois, on oublie que la plus grande dignité, c'est de mourir avec la foi. Et pas seulement dans les soins palliatifs, mais avec la foi et la réconciliation en Dieu. Voici le chemin vers notre paix, mes amis. Vers la paix du cœur, la paix intérieure, vers la paix de Dieu, vers la paix avec Dieu. J'ai péché contre toi seul, je t'ai blessé. Dans le livre des Proverbes, il est dit, l'insensé envoie des flèches, flouf, 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 il envoie des massues, il envoie des... Et il dit, c'était pour s'amuser. On m'a parfois fait du mal, on a dit, mais non, c'était pour rire. Mais le cœur de Dieu est blessé par tout ce qui blesse les autres. Alors David est là. Nous avons lu l'histoire. Et je pense que nous pouvons éprouver de la honte dans le péché. Nous pouvons éprouver de la souffrance, du remords, sans rencontrer Dieu qui répare la vie. J'ai péché contre toi seul. Si on ne rencontre pas ce Dieu-là, on va traîner avec nous une offense. Peut-être notre mémoire va faire défaut, on ne s'en rappellera plus, mais elle sera toujours là. Car le temps qui passe n'efface pas, n'use pas la faute que nous avons commise contre le prochain. Et le génocidaire rwandais, il y a 20 ans, ou 30 ans, je ne sais plus, son péché est toujours le même. Le temps passé n'enlève pas la gravité du péché. Et David ne gémit pas seulement de remords tournés vers lui-même, sur sa réputation de roi, sa réputation de grand chantre de Dieu, sur son honneur. Le remords, c'est une étape vers la libération du mal. Il gémit sur une relation avec Dieu blessée. Il a trompé Dieu. Dieu avait toute confiance en lui. Il gémit parce qu'il a blessé la confiance de Dieu, l'amour de Dieu, les confidences de Dieu, l'amitié de Dieu. Il souffre de ça. La Bible dit qu'il y a dans le péché une jouissance, dans le livre des Hébreux. Mais Dieu a voulu que la douleur soit attachée au péché, l'amertume soit attachée à la conscience. C'est bien. Moi, je suis content d'avoir des sensibilités aux mains. Je suis content de temps en temps de ressentir le feu. Quand j'étais petit, je suis tombé dans une lessiveuse. À l'époque, on mettait une lessiveuse au milieu de la cuisine et on faisait bouillir le linge. Et je suis tombé dans la lessiveuse. Je suis brûlé énormément. Mais je ne suis pas sorti de cet enfer en disant oh, « ben, je ne sens rien, c'est bien ». La douleur m'a dit « c'est grave, tu viens de te brûler ». Et quand je mets ma main sur le feu, eh bien, je me la retire parce qu'il y a cette douleur qui me dit « attention, danger ». Aujourd'hui, dans le monde du plaisir de notre siècle, on ne voudrait jamais souffrir dans notre conscience. On fait tout pour enlever la culpabilité, le sentiment d'avoir fait mal. Il y a même des gens spécialistes qui essayent de dire aux gens « Vous n'avez pas fait mal ». Mais la souffrance du péché permet de rentrer en soi-même. Regardez le fils prodigue. Quand il a été dans la souffrance, malheureux, il a tout perdu, il ne mangeait même pas ce que mangeaient les pourceaux. Il est rentré en lui-même parce qu'il avait une souffrance. J'arrive à la fin de cette conférence. Et nous avons lu ensemble ce texte aussi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Certains m'ont dit, ah, c'est facile. On demande pardon et puis sans payer, sans faire amende honorable, voilà, on est pardonné. Mais quand David dit « Efface mes péchés, je serai plus blanc que la neige », je vais vous dire, David, il est déjà dans l'esprit de l'Évangile, il est déjà dans l'esprit du Christ, il invoque l'amour de Dieu. Saint Augustin disait « Veux-tu fuir la colère de Dieu ?» Oui. Jette-toi dans ses bras. Et je pense qu'il faut nous jeter dans ses bras. J'ai péché, rends-moi pur. D'autres m'ont dit, si Dieu fait grâce comme ça facilement, le coupable va oublier et va recommencer. Peut-être. Mais quand Dieu pardonne, il nous donne une bonne dose d'amour. Il éduque notre cœur. Et David disait, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous vous rappelez de l'apôtre Pierre, qui a dit, j'ai toujours un frisson dans le dos quand je dis cette parole, je jure, je ne connais pas Jésus. C'est terrible, hein ? Il a été pardonné. Mais la Bible dit, chaque fois qu'il y pensait, il pleurait. Quand Dieu pardonne, on n'oublie pas comme ça. Et Paul, massacreur de chrétiens, qui faisait violence aux femmes et aux hommes chrétiens de cette époque, Dieu lui a pardonné, mais dans ses lettres, dans ses épîtres, il se souviendra toujours en gémissant qu'il a persécuté l'Église du Christ. Faut-il souffrir, me direz-vous ? Pour mériter le pardon de Dieu, non. Faut-il faire des œuvres comme si Dieu n'était pas capable de pardonner lui-même, comme si Dieu nous aimait avec des limites. Je t'aime jusque-là, après tu dois payer. Comme si Dieu nous aimait avec des conditions. Comme si Dieu nous aimait avec un contrat. Dieu nous aime sans limite. Son amour est éternel, ce qui veut dire qu'il nous aimera pour l'éternité puisque nous serons éternels. C'est beau, c'est frais. L'amour de Dieu nous lave, nous change. Nous avons besoin de ce pardon chaque jour parce que notre nature est penchée vers le mal. Vous n'avez pas été surpris par la parole de David ? Je suis né dans l'iniquité. Tout petit David, là, qui avait quelques jours. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché, mais que veut dire David encore là ? Est-ce que la maternité serait un péché ? Est-ce que nous recevons le péché de nos parents, même de nos grands-parents ? Quand nous naissons, Jésus est passé par la naissance. Et ses ancêtres, David était un ancêtre, et ses ancêtres avaient commis des fautes. La femme enceinte est une femme bénie, bénie par Dieu. Et Élisabeth dira à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es la plus bénie. Le péché qu'on a tous, c'est être loin du Seigneur. Par nature. Et ça nous conduit à des actes qui nous éloignent encore plus du Seigneur. C'est terrible mal. Hein. Mais que veut dire David quand même? Revenons-y quelques secondes quand il dit « Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché ». Depuis sa naissance, David voudrait dire « Je suis dans une situation d'éloignement. Je suis un être mortel. Je ne suis pas capable de faire le bien, tout seul. Je suis incapable d'être à la hauteur pour Dieu. Et je suis capable de faire le mal. » D'ailleurs, l'enfant, on le voit parfois à 3-4 ans déjà. On sent la graine pousse, non ? Je suis en attente, cela veut dire, je suis en attente d'être pris par la main de Dieu pour être adopté. Crée en moi un cœur pur. J'ai besoin que tu crées, que tu finisses ta création. Bon, tout est fini, j'ai mes doigts, j'ai mes pieds, j'ai mes yeux, mais en moi, j'ai besoin que tu finisses ta création et que tu me crées une âme belle. Je termine. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. C'est quoi l'hysope? C'est une branche de bois. Une branche avec laquelle on aspergeait les lépreux. C'est un signe, c'est un rite de l'Ancien Testament, de la Bible. On les aspergeait pour les déclarer guéris, purs. Est-ce que David se prend pour un lépreux? Repoussant, exclu? Pourquoi cette prière? Ce n'est pas Dieu qui asperge, c'est le grand prêtre, c'est le sacrificateur. J'ai l'impression que David demande à Dieu que ce soit Dieu qui le lave, que Dieu l'asperge, le purifie avec une purification supérieure à celle des hommes. J'ai l'impression qu'il veut dire, je voudrais que tu fasses plus que les autres. Je voudrais que tu nous envoies le Christ. Le Christ. Qui nous purifie pour toujours du mal. Et je pense que l'hysope, ce morceau de bois qui servait à asperger les maisons en Égypte pour qu'elles soient protégées du mal, je pense que ce bois représente la croix de Jésus. Comme s'il disait, purifie-moi d'après le grand amour que tu nous as manifesté sur la croix, que cet amour-là me purifie. Et c'est vrai que quand Jésus est mort, on lui a donné à boire avec une éponge qu'on a mis au bout d'un morceau d'hysope, le bois qui servait à purifier. Annonce-moi l'allégresse et mon cœur se réjouira. Voilà la fin du psaume. Je ne crois pas qu'il y ait une pureté naturelle. Je ne crois pas que nous, naturellement, on soit bon, parfait. Il y a une pureté qui est donnée par Dieu. Une pureté qui est reçue dans la foi. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Mais en disant « purifie-moi, lave-moi, je serai plus blanc que la neige », en disant tout cela, David a conscience, j'aimerais qu'on en ait conscience ce soir, David a conscience que le péché n'est pas définitif. Le péché ne nous enferme pas dans un univers définitif, sans remède, si nous implorons le pardon de Dieu. Je vous ai montré le chemin de David pour aller vers la paix. À travers ce psaume que certains considèrent comme étant un des joyaux de la littérature universelle, si nous prenions quelque autre chemin, je pense que notre âme perdrait de sa franchise, de sa fraîcheur. Notre conscience n'aurait plus sa voix forte qui parfois retentit comme une sonnette d'alarme. Si on n'est plus avec Dieu, on est déconnecté de l'essentiel. Quel chemin ? Conduis-nous vers la paix. Quel chemin ? Pesanteur de sa conscience, c'est un chemin. Je gémis toute la journée. Dieu qui appelle, c'est un chemin. Tuer cet homme. La prière dépouillée de tout mérite. Aie pitié de moi, Seigneur. L'annonce du pardon de Dieu. La paix avec Dieu retrouvée. quel chemin ? Je pense que le chemin vers Dieu consiste à se relever toujours. On se relève sans cesse. Grâce à Dieu, pour rester avec lui et puis finir dans la résurrection rayonnante où nous serons pas seulement avec lui, mais nous serons semblables à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prie Dieu avec vous. Conduis-nous vers tes sentiers, conduis-nous vers le vrai chemin. Ne nous laisse pas errer dans nos pensées, dans les traditions des hommes, nos traditions à nous. Nous ne voulons pas faire de ce péché une affaire personnelle, c'est ton affaire. C'est ton remède qui compte. Et nous voulons nous libérer de ce fardeau qui nous appesantit la vie et qui détruit les relations et la paix intérieure. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Amen.